L'heure est au bilan dans le monde du tennis. Denis Shapovalov, qui est nommé athlète masculin de l'année 2017. Il a été incroyable. Il est passé de la position 250 à la 49e place mondiale pour conclure à la 51e place mondiale. Toute une performance. On en parle avec Hélène Pelletier qui est avec nous. Allô, Hélène?
Oui, bonsoir, Jérémy.
Hélène, Denis Shapovalov a reçu le titre d'athlète masculin de l'année, mais vraiment, c'était mérité. Ce jeune homme nous a emballés pendant cette dernière saison.
Écoute, il n'arrête pas de nous surprendre. En fait, ce qu'il a réussi à la Coupe Rogers dans un premier temps, battre des joueurs d'expérience, battre des grands champions comme Nadal, d'enchaîner au US Open, s'extirper des qualifications alors que tous les regards du monde étaient sur lui. Il a continué de nous épater avec son tennis que je qualifie, et c'est un terme que j'aime beaucoup parce que, évidemment, c'est le temps des fêtes pour tout le monde. On célèbre, on boit du champagne, mais lui, il a un tennis champagne. C'est-à-dire qu'il est toujours tellement explosif, le bouchon explose, il a fait des choses vraiment extraordinaires, puis il a côtoyé les meilleurs. Et quand on dit que Roger Federer a été tellement impressionné qu'il a décidé de l'inviter à la Coupe Laver, que c'est pas seulement au Canada où il a fait parler de lui, mais c'est la planète entière qui a été impressionnée, non seulement par son tennis de très haut niveau par moment, mais également par son attitude, par son humilité. Et dire, Jérémy, qu'en février de cette année, 2017, il y a quand même pas si longtemps, il était la brebis galeuse en Coupe Davis, tu te souviens, contre oui. l'Angleterre, alors qu'il avait fait un geste qui aurait pu lui coûter cher dans un sens, en blessant l'arbitre. C'était sûr qu'il visait pas l'arbitre, mais il a perdu le contrôle de ses émotions et donc a frappé une balle directement sur l'œil gauche d'un arbitre français. Heureusement, l'arbitre n'a pas perdu son œil. Ils sont devenus amis. Il a vécu une période vraiment très noire et regarde jusqu'à quel point il a renversé cette situation. C'est un conte de fées.
Évidemment, tu as parlé de son attitude. Je pense que c'est ce qui le démarque. C'est un bonhomme qui a une bonne tête sur les épaules. Le fait maintenant d'avoir Martin Laurendeau avec lui, son entraîneur personnel, comment tu vois cette situation?
Ben, ça m'a étonné lorsque j'ai entendu, évidemment, cette nouvelle que Martin laissait son poste à la tête de la Coupe Davis. Puis en même temps, quel grand signe de confiance envers tout le potentiel que Martin est convaincu que Denis Shapovalov possède à l'intérieur de lui. Ça veut dire que le jeune demande évidemment une supervision très serrée. Il ne faut pas que les décisions qui soient prises lors des deux prochaines années soient prises à la légère. Cela demande énormément de réflexion, de concentration, et Martin se doit d'être à 100% concentré justement sur le cas Shapovalov, tellement c'est une perle rare et qu'il ne faut pas passer à côté du moment. On s'entend là-dessus. Alors, j'étais aussi très heureuse de savoir que dès que Denis Shapovalov s'est senti assez en forme, qu'il avait fait un trait sur l'année 2017, malgré tous les honneurs qu'il reçoit à gauche et à droite, pas seulement ici au Canada, mais également du côté de l'ATP, qu'il est déjà tellement hâte de se retrouver à l'Académie de Nick Bollettieri à Bradenton, en Floride, à l'Académie IMG, pour aller travailler le côté physique du tennis. Le côté physique pour devenir plus fort, pour pas avoir de baisse de régime. Parce que sa baisse de régime, Jérémy, en fin d'année, moi, je pense que c'est tout simplement de la fatigue accumulée. Beaucoup, beaucoup de pression également maintenant d'être une superstar connue à travers la planète. Donc, à un moment donné, il faut être plus fort physiquement. Et déjà qu'il est un peu frêle, et déjà que dans les standards d'aujourd'hui, il ne fait que 6 pieds, et non 6 pieds 5 et 6 pieds 4 comme Vacek Pospisil et Miloš Raonic, ben, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles, évidemment. Alors, on a travaillé extrêmement fort, on a engagé un préparateur physique, et c'était beau de le voir partager des images d'une façon très professionnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans, donc c'est un enfant encore, mais déjà, il prend son métier très, très au sérieux, et il le sait que l'année prochaine sera quand même extrêmement difficile parce qu'il aura, comme c'est toujours le cas au tennis, cette lourde tâche, nous on peut s'en parler comme ça, cette lourde tâche de défendre tous les points qu'il est allé chercher à la Coupe Rogers et même tous les petits tournois qui lui ont permis de se faire une place d'abord dans le top 200 et par la suite dans le top 100 et d'aller évidemment, on s'en souvient, cet été jusqu'à la 49e place mondiale. Donc, des hauts faits d'armes, mais il faut faire encore mieux l'année prochaine. Et là, tout le monde l'attend. Il faut travailler le revers, améliorer ce jeu-là, parce que les joueurs en fin de saison tu l'as sûrement vu comme moi, lui pilonnait le revers et on allait chercher juste une fraction de seconde de retard du côté de Denis physiquement pour bien se préparer et frapper son revers. Et il y avait des fautes directes un peu plus. Alors, un tennis champagne est un tennis qui demande énormément physiquement. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il est prêt à faire le travail.
Évidemment, on le sait, c'est là que ça a été peut-être problématique pour Eugénie Bouchard à l'époque. Est-ce que tu sens, oui, Denis Shapovalov solide et être capable de compétitionner pour les points à gagner, justement, à défendre?
Oui, ben écoute, c'est sûr que pour l'instant, c'est tout nouveau, tout beau. La montée a été fulgurante, pas aussi fulgurante que celle d'Eugénie Bouchard, évidemment, parce qu'Eugénie a fait deux demi-finales Grand Chelem en plus d'une finale en 2014. Donc, c'est sûr que quand tu réussis tes meilleures performances dans les tournois les plus grands, c'est-à-dire les tournois du Grand Chelem, trois fois sur quatre tournois, c'est sûr que tu montes très rapidement. Donc, elle a atteint le cinquième rang. Alors, pour Denis, la bonne nouvelle, c'est que oui, la progression a été belle, mais en même temps, il y a encore de la marge de manœuvre. Tu comprends? Tu peux connaître deux, trois, quatre semaines où c'est un peu plus difficile, que tu perds tôt, mais c'est lorsque tu es top 10 que ça finit par te coûter extrêmement cher. Alors, je pense que il y a une progression qui se fera. Il sait exactement à quoi s'attendre. Il y aura aussi également, et ça, c'est peut-être le domaine dans lequel Eugénie a eu un petit peu plus de difficultés, évidemment, de par sa grande beauté et sa capacité d'entretenir les foules, parce qu'elle est très volubile, elle a beaucoup, beaucoup de talent. Elle est capable d'entretenir des conversations intelligentes avec des commanditaires de renom, tels Coca-Cola, tels Rolex. Alors, Eugénie s'est un peu perdue dans ce monde-là, puis elle a fait beaucoup, beaucoup d'argent également. Tandis que pour Denis Shapovalov, je pense qu'on va peut-être réussir à le protéger un peu plus. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, et je veux rien enlever à Eugénie parce qu'elle a fait, c'est fantastique, mais je pense qu'il a cette qualité, ce qu'il a vécu, la grande difficulté là en Coupe Davis en février dernier. Je te dis que ça l'a ramené dans un endroit extrêmement humble personnellement. Écoute, il voulait même plus sortir de la maison tellement il était gêné de ses agissements durant la Coupe Davis, tellement il a été peiné pour l'arbitre de l'avoir blessé de la sorte. Alors, je pense que ce moment-là peut toujours le garder sur le droit chemin, dans le sens que j'ai vraiment l'impression personnellement, et c'est une opinion vraiment personnelle, Jérémy, je sais pas qu'est-ce que toi tu en penses, mais j'ai l'impression que sa base, elle est fondée sur l'humilité.
Ouais, t'as raison là-dessus. Puis moi, je réitère le fait que Martin Laurando soit avec lui. J'ai l'impression qu'on a dit, on va essayer d'encadrer de façon supplémentaire un gars qui a, oui, beaucoup de potentiel. Et moi, je trouve que c'est une bonne décision de la part de Tennis Canada de laisser aller Martin Laurando.
Oui, parfaitement. Puis en même temps, ben c'est sûr qu'on espère, parce que le Canada, sans avoir une équipe pleine nécessairement, a fait la demi-finale en Coupe Davis. La Belgique, qui n'a qu'un joueur de très haut niveau, David Goffin, ils sont venus très proches de gagner la Coupe Davis contre la France cette année. Alors, on s'imagine qu'avec un Denis Shapovalov, tout feu, tout flamme, Vacek Pospisil, qui peut très certainement aider l'équipe en double et même en simple, et Miloš Pospisil, qui à un moment donné, j'espère, va retrouver la santé pleinement, on pourrait, nous aussi, un pays comme le Canada, qui n'a jamais été vraiment considéré comme un pays qui pourrait gagner une épreuve prestigieuse, qui a perdu des plumes, oui, parce que tous les grands joueurs ne jouent pas systématiquement à chaque année, mais ça demeure. Je ne sais pas si tu as vu des images de la Coupe Davis au mois de novembre, c'est hallucinant, ben oui, le plaisir. C'est gros comme la Coupe du monde de foot en Europe, tellement c'est important. Alors ça aussi, moi j'espérais que Martin ait la chance d'amener l'équipe plus loin qu'une demi-finale, ce qui était déjà formidable, mais à un moment donné, quand t'as un diamant en brut, il faut que tu t'assures qu'il soit bien poli. Et comme je te disais tout à l'heure, honnêtement, là, il faut pas faire d'erreur avec lui, comme il faut pas faire d'erreur avec Félix Auger-Aliassime, qui malheureusement n'ira pas en Australie parce qu'il est blessé au genou.
Non, c'est un jeune qu'on va suivre, évidemment. Hélène, le temps file. Je veux parler de Nadal et Federer. Écoute, c'était leur année. On a l'impression que les deux sont tombés dans une fontaine de jouvence, sont revenus en force malgré les blessures. C'était incroyable de voir aller ces deux vétérans, Raphaël Nadal et Roger Federer.
Oui, évidemment, ben Raphaël Nadal l'a reculé. Il n'a pas pu s'empêcher de pousser la machine un peu trop et ça lui a coûté sa fin d'année. Il est allé chercher finalement la première place mondiale. Mais ce que Roger Federer, lui aussi, s'est fait prendre au jeu, tu te souviens, les choses avançaient de façon extraordinaire. Et dire qu'en début d'année, l'année passée, à ce temps-ci de l'année, alors qu'on savait qu'il allait jouer pour s'amuser, la Hopman Cup, à Perth, en Australie. Et c'était ça sa préparation pour les internationaux d'Australie et sa façon de naviguer à l'intérieur du tournoi et d'aller chercher le titre alors qu'il tirait de l'arrière par un bris de service au cinquième set devant son meilleur ennemi, Raphaël Nadal, qui réussisse à gagner. Parce que s'il avait perdu assez tôt, en première semaine Grand Chelem, il aurait quitté le top 10. Il aurait même été, je pense, 22 ou 25e au monde, Roger Federer. Et là, soudainement, en plein milieu de l'été, il voit s'ouvrir une porte que ça devient possible pour lui de reprendre la première place mondiale. Il s'est laissé prendre au jeu, il est venu à Montréal, il a poussé un peu trop son corps, puis on connaît la suite des choses, il a traîné des problèmes au dos au US Open, mais il a quand même fini l'année sur une note intéressante. Mais c'est vrai que ces deux-là nous ont épatés. Rien enlevé, cependant, à leur... grands ébats et à leur succès monstre en cette année 2017, mais il faut aussi parler d'une déconfiture totale, physiquement surtout, du côté de Novak Djokovic et ainsi qu'Andy Murray. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en sera de ces deux-là en 2018.
Je veux qu'on prenne juste quelques instants pour parler d'Alexander Zverev qu'on a vu ici à Montréal. Il est incroyable, il est grand, il est habile, il a une bonne attitude. Comment tu vois la saison 2018 pour lui?
Ah, je trouve ça fort intéressant que tu en parles. Il a été troisième au monde finalement, vu que Grigor Dimitrov a gagné le championnat de fin de saison. Dimitrov l'a devancé au classement. Dimitrov est troisième, Alexander Zverev est quatrième. Mais écoute, il a gagné deux tournois de la Série 1000, un sur terre battue à Rome juste avant Roland-Garros, qui est un tournoi où les joueurs donnent leur plein potentiel parce que c'est juste avant un grand chelem. Et par la suite, il a gagné chez nous, oui, devant un Federer amoindri en finale, on l'a bien vu, mais quand même, il démontre des choses fantastiques. La seule chose qui lui manque, Jérémy, c'est de réaliser de belles performances en grand chelem. C'est la seule chose qui lui manque. Il a seulement, si ma mémoire est fidèle, une deuxième semaine en grand chelem, et c'était au tournoi Wimbledon. Il avait perdu en ronde des 16 devant Miloš Raonic dans un match en 5-7. Alors, c'est la seule chose. J'ai l'impression qu'il se met un petit peu trop de pression en grand chelem parce qu'on l'annonce évidemment à chaque fois comme prochain champion du grand chelem, un futur numéro un mondial. Mais juste à regarder les images de lui sur le site de l'ATP, déjà sur la photo qui a été prise en début d'année, on le voit évidemment grand, qui a pris un peu de muscle. Mais là, il reste à Monte Carlo. Il y a plusieurs joueurs, évidemment, qui se regroupent dans différents endroits. Certains à Dubaï, certains en Californie, d'autres en Afrique et aussi à Monte Carlo. Il y a plusieurs joueurs qui sont là, dont Berdych, dont Dimitrov et les frères Zverev. Et il passe, c'est drôle parce qu'il demeure évidemment sur la montagne, puis il descend à travers les rochers, des escaliers. C'est vraiment très beau le reportage qu'on a fait sur lui, sur les deux frères en fait, tout récemment du côté de l'ATP. Et puis on le voit aller dans un gym assez secret, mais qui est très prisé, où il y a les meilleurs équipements. Et puis il a Jess Green, qui a été l'ancien préparateur physique d'Andy Murray. Et Dieu sait que pour faire un body de Superman à Murray, il faut être vraiment au sommet de son art. C'est le cas de Jess Green. Et déjà, tu regardes Alexander Zverev, Jérémy, sur ces images-là, puis il a encore pris du muscle. Alors, j'ai l'impression qu'il va être encore plus épatant la saison prochaine. Puis écoute, il a gagné en cette année 2017 5 titres, 55 victoires, 5 millions de dollars en bourse sur le terrain de tennis en une année seulement, à son âge. C'est très impressionnant.
Évidemment, du côté des dames, retour attendu, c'est Serena Williams qui effectue un retour. C'est de façon participative, disons-le, mais ça s'en vient, c'est le 30, c'est samedi prochain.
Oui, et puis, écoute, j'ai une petite anecdote particulière. Je m'entraînais à côté de Serena durant les dernières semaines à Ballin Isles, en Floride. C'est là où elle a une propriété avec sa sœur. Et c'était incroyable le bruit que ça faisait lorsque Serena frappait la balle. Je te dis, c'est un bruit qui est unique pour une femme d'être capable de frapper et de l'entendre juste à côté de moi, frapper la balle aussi fort, avec énormément d'intensité. Plus d'intensité cette année, je te dirais, que dans les années passées, à ce temps-ci de l'année, parce que, évidemment, sa saison a pris fin après avoir gagné les internationaux d'Australie l'année passée. Elle a gagné ce tournoi-là en étant enceinte. On sait qu'elle a eu sa petite fille, Alexis, et que c'est le bonheur parfait. Elle semble tellement, tellement heureuse et je l'ai sentie beaucoup plus intense à l'entraînement. Maintenant, écoute, c'est tout un défi, hein, on s'entend là-dessus. Puis elle a pris de l'âge, elle aussi, bien évidemment. Alors, j'ai vraiment hâte de voir. Je sais qu'elle va avoir le couteau entre les dents en Australie, ça c'est certain. Parce que là, évidemment, elle regarde, évidemment, elle prend de l'âge, comme tout le monde. Et les mamans qui sont revenues sur le circuit, on pense à Kim Clijsters, on pense à Yvonne Goolagong, il y en a eu certaines, mais une grande championne comme Serena Williams, ce sera tout un défi d'essayer d'avoir le même niveau. Mais je pense que s'il y a quelque chose que l'on retient dans cette année 2017, où ça a été la chaise musicale au sommet chez les dames, avec Muguruza qui gagne, qui devient numéro un, Halep qui passe à côté 3-4 fois, alors que non seulement les victoires s'offrent à elle, mais elle flanche à la dernière minute. Elle réussit finalement à aller chercher la première place mondiale et finir l'année numéro un, mais on s'entend qu'il y a à peu près 15 filles qui peuvent gagner un grand chelem l'année prochaine. Alors, pour Serena, ce serait important. Puis elle le sait qu'il y a une capacité d'écrire l'histoire encore plus lors des 2-3 prochaines années pour elle. Écoute, Serena gagne l'Australie, Ostapenko, Roland-Garros, Muguruza, Wimbledon et Sloane Stephens, le US Open. Alors, qui l'aurait cru, vraiment?
Hélène, en terminant, c'est la traditionnelle question que je te pose à chaque année. Crois-tu que Eugénie Bouchard va revenir en force la saison prochaine? À un moment donné, est-ce qu'elle va revenir à un moment donné?
Ah, j'aimerais tellement. Elle est quoi, le 83e au monde? Mm-hmm. Elle a fait de, tu sais, c'est un manque de constance, un manque de focus. Puis, on s'en est déjà parlé, Jérémy, elle est quand même traitée comme une superstar, une grande vedette, c'est le tapis rouge partout où elle passe. Le fait de, aussi, en langage populaire, on dit qu'elle est assise sur quelques millions et c'est plusieurs millions de dollars. Donc, la défaite fait moins mal ou elle fait mal, mais moins longtemps. Alors, est-ce qu'il faut être affamé pour être capable de survivre sur les circuits internationaux? Peut-être. Est-ce qu'elle le sera? Je l'espère. Parce que dans 10 ans, ça va être trop tard hein, pour essayer de revenir à un meilleur niveau. Mais tu sais, même l'année passée, elle avait été grimper les montagnes à Las Vegas avant les internationaux d'Australie. Puis elle avait joué un super tournoi à Melbourne. Elle avait finalement, je ne sais pas si tu te souviens, perdu au 3e tour devant Coco Vandeweghe, qui s'était rendu jusqu'en demi-finale et qui a fait la demi-finale au US Open également. 7-5 au 3e set. Elle avait eu ses chances de gagner. Elle était juste passée à côté du moment. Elle a connu aussi une belle performance à Madrid avec une présence en quart de finale. Des victoires devant Sharapova, Kerber, qui était top 3 à ce moment-là. Tu sais, elle a quand même certains moments, demi-finale à Sydney en battant Shibulkova, qui a été une top 10, Pavlyuchenkova, qui est un grand potentiel, une top 20. Alors, il y a eu de bons moments, mais beaucoup trop de mauvais. Et c'est comment tu réagis à ce moment-là. Tu sais, il faut qu'elle soit vraiment plus concentrée sur l'aspect physique du jeu. Parce que dès qu'elle commence à s'entraîner toute seule en Floride, on ne sait pas trop avec qui, puis qu'elle n'est pas tout à fait au maximum à l'entraînement, ça paraît tout de suite dans ses déplacements. Déplacement du côté de son coup droit, déplacement vers l'avant, puis sa deuxième balle de service devient vraiment un gros point d'interrogation. Alors, à ce moment-là, il y a trop de trous dans son jeu, puis elle fait moins mal et moins peur aux autres. Et pendant ce temps-là, ben, toutes les autres avancent. Et elle, on a l'impression que c'est un pas en arrière, deux pas derrière, un pas en avant. C'est comme une petite danse de la cinguille. Alors, j'espère qu'elle va rester pleinement concentrée. Mais je vais être super honnête avec toi, je n'ai aucune idée si ce sera le cas.
Espérons pour le mieux dans le cas d'Eugénie Bouchard. Hélène Pelletier, c'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion de te parler et je te souhaite une merveilleuse année 2018.
Hey, toi de même. Merci infiniment, Jérémy, et à toute la belle équipe du 98.5. Bye-bye.